ricchezza. A due narcisi di per bellezza, innamorati Marco Antoni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni, verso noi sarian buffoni. Siamo più forti, non ci clappo, non ci clappo. Le ferrati al cuor di Esopo.
De Soutzen, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps que votre peau perd de 32 000 de ses cellules cutanées. Une heure et demie, c'est le temps qu'en France soit acheté 1 million de bouteilles d'eau, d'ailleurs trois fois moins que ça au Royaume-Uni. Une heure et demie, c'est le temps, si vous êtes un critique littéraire, qu'il vous faudra pour lire un des livres de la rentrée littéraire, si vous voulez tout lire sur le mois de septembre, puisque 460 nouveaux romans sortent cette année. Une heure et demie, c'est aussi le temps que soit produit en France 11 tonnes de mozzarella, et c'est le temps que soit utilisé, gaspillé directement, indirectement, pour chacun d'entre nous, 900 grammes de CO2 de Soutzen. Quelques petits, je me souviens. Je me souviens que sur tous les étudiants que j'ai côtoyés à l'école normale dans les années 80, au moins 9 ont une page Wikipédia qui leur est consacrée. Je me souviens de Gloup Gloup en tarton les joyeux cornichons. Je me souviens que j'ai un Bouddha en bois de santal, rapporté par Étienne d'un semestre d'études en Inde. Étienne, qui est à la fois agrégé d'histoire et père jésuite, auteur de livres sur Dieu, et peut-être même, pour un agrégé d'histoire, allez comprendre, sur la création du monde. Étienne, que j'avais provoqué en laissant traîner dans sa chambre les 12 preuves de l'inexistence de Dieu de Sébastien Faure, achetées à la librairie du Monde Libertaire. Je me souviens de cytosine, adénine, thymine et guanine. C'est pas des prénoms, ce sont les quatre molécules qui forment le dictionnaire de notre ADN. Je me souviens qu'au jardin de mon père, les lilas sont fleuris, les lilas sont fleuris. Je me souviens que la grenouille gastrique d'Australie avale ses propres œufs après les avoir pondus et les conserve dans son ventre jusqu'à l'éclosion, moment où elle recrache alors sa vingtaine de mouflets. Je trouvais pas que c'est encore plus fort que Rabelais avec la naissance de Gargantua. Je me souviens des pagodes industrielles de Julos Bocarn, empilement de bobines en bois à enrouler les câbles DF de différents diamètres, d'une dizaine de mètres de haut, ressemblant à des pagodes tibétaines. Mon père rêvait d'en ériger une dans son jardin. Je me souviens que, ah, vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Je me souviens que, même quand elle n'a plus eu besoin de surveiller le sommeil de son bébé, Claudia a gardé le babyphone à pile, dont elle allait de temps en temps cacher l'émetteur dans le bureau de son mari au rez-de-chaussée pour surveiller ses rapports avec sa secrétaire. Tout ça sur les conseils de sa mère. Je me souviens qu'il est plus facile de faire la une des émissions d'information en continu avec une souris retrouvée dans une boîte de conserve de cassoulet qu'avec 30 enfants enlevés au Soudan. Je me souviens que c'est le colonel Moutarde, dans la bibliothèque, qui a fait le coup avec le chandelier. Non, ou alors c'est Madame Leblanc dans la véranda avec la clé à molette, ou Mademoiselle Rose dans la cuisine avec la corde, à moins que ce ne soit le professeur Violet dans le hall, mon cousin disait hall, avec le revolver. En fait, ça change à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est chiant et nul, le Cluedo. Je me souviens que lors de son procès, pour expliquer en partie son geste, Violette Nozière a évoqué les viols infligés par son père en disant juste qu'il oubliait parfois qu'elle était sa fille. Je me souviens qu'il était un petit homme pirouette-cacahuète qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Je me souviens que Marat aimait à raconter un fait divers dont la lecture l'avait marquée quand elle était petite. Une religieuse s'était suicidée en se jetant du haut des tours de Notre-Dame et avait fini sa chute sur une touriste anglaise qui était morte sur le coup. Jusqu'au jour où elle raconta cette anecdote sans le savoir à un cousin de la dite religieuse. Je me souviens que même si elle n'avait rien à léguer, Josette avait rédigé à 60 ans son premier testament, qu'elle actualisait chaque année, simple enveloppe en papier kraft, dans laquelle était glissée la photo d'elle qu'elle souhaitait qu'on fît figurer sur sa tombe. Réactualisée d'ailleurs au fil des ans, et rajeunissant d'ailleurs peu à peu. Je me souviens qu'il n'y a jamais eu de café Pouchkine à Moscou, sauf dans la chanson de Beko, et que 30 ans après l'histoire de Nathalie, le guide aux si jolis noms, un investisseur décida d'en créer un pour les Français. Je me souviens que Florent a gardé pendant 10 ans le porte-clés et la clé qu'il avait trouvé un jour par hasard par terre, avenue Gambetta. Il y avait un code écrit dessus, A7321, deux clés et une mention 5e étage, porte droite. Comme un porte-bonheur ou un billet de loto, une probabilité infime qu'en entrant sous un Porsche, au hasard, le code et la clé lui ouvrent la porte sur un appartement gratuit. Dessous de scène, magazine en direct et sans public, ici les studios. À vous les studios, aujourd'hui c'est théâtre.
Oui, aujourd'hui c'est théâtre. Et alors sans public, nous sommes à la fois...
Oh bah oui quand même.
Nous sommes, sommes public aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est très important le public. Déjà parce que Anne et moi, nous allons au théâtre. Oui. Et nous, même si on écrit parfois sur les spectacles qu'on a vus, on fait partie du public.
Et hein. Oui, exactement.
Donc c'est vachement important, s'il n'y a pas de public... Eh bien, il n'y a pas de spectacle.
Exactement.
Hein, faut pas oublier ça. Alors, aujourd'hui, ben, Anne a invité...
Laura Zerbib.
Alors, Sébastien, vous allez vous présenter.
Ben oui, vous allez vous... Alors, Laura, on va commencer par Laura.
Laura Zerbib.
Oui, voilà.
Sébastien Scholl et Jean-Baptiste Coup.
Et vous êtes co-auteurs tous les deux, Sébastien et Laura. Et vous avez aidé à l'écriture.
Oui, tout à fait.
Pour La Grille que j'ai vue au mois de mai. Et que j'ai beaucoup aimé au Théâtre du Gouvernail. Voilà, et qui va se donner au Théâtre Clavel à partir du 17 septembre à 19h30. Bon, on en reparlera. Donc, moi, La Grille, ça m'avait plu parce que l'originalité du texte. Alors, il faut quand même se projeter aussi dans l'avenir puisque ça se déroule en 2058. Ça se déroule, j'aurai 105 ans.
Il y a un gros saut d'année. Parce
oui,
que,
oui.
Je ne sais pas si nous, on ne sera plus là.
Oh, j'aurai 105 ans et toi,
tu
seras. Voilà. Bah non, moi, je ne prends pas de pilule pour de pilule d'immortalité, non. Pas du tout. Mais bon, en fait, ce n'est pas grave. Oui, alors, donc, on appelle ça une dystopie, hein,
oui.
C'est ça?
Oui, on parle de dystopie, mais même si on hésite un peu sur la classification anticipation. Puisque ça se passe à Paris, mais c'est quelque chose qui pourrait exister finalement dans pas si longtemps que ça. Donc on hésite toujours entre dystopie et anticipation.
Voilà. Oui, d'ailleurs le terme dystopie, ça fait un terme très savant. Et quand moi je le lance comme ça, comme une balle, mais en fait j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Enfin si, ça veut dire que c'est un peu une fiction qui se passe... on ne sait pas si ça va se produire, ne pas se produire, c'est un peu comme... 1984, mais ça s'est quand même bien produit.
C'est le contraire d'une utopie, en fait.
Oui, c'est le contraire d'une utopie. Oui, voilà.
C'est un univers fictif, le pire possible.
Oui. Oui. Là, je comprends mieux.
Oui. Donc, la grille, ça se déroule sur la ligne 12 du métro.
Oh, mais je la prends, moi, cette ligne.
Ben voilà, tu donneras des sous.
D'accord.
Et moi aussi, je la connaissais. Je connais aussi. Et donc, ils vont participer un jour à une télé-réalité.
Oui.
N'est-ce pas? Donc, Laura, je vous laisse un peu expliquer le synopsis, comme on dit.
Oui. Alors, c'est-à-dire, c'est trois quêteurs, trois mendiants, mais que nous avons appelés quêteurs dans la pièce, qui vont participer à un concours télévisé. C'est le dispositif de la pièce, pour espérer remporter un concours pour pouvoir quêter légalement sur les lignes du nouveau métro. Donc, eux sont des candidats de la ligne 12, mais ils auront peut-être la chance de de Mandier dans les nouvelles lignes, puisqu'on a un métro futuriste, un métro...
plus chicos, on va dire.
C'est ça, voilà, le nouveau
lignes.
Métro.
De 30 lignes.
Mais il voilà. y en a un qui va ouvrir, là, justement,
effectivement.
Avec le Grand Paris. 12, là.
Le Grand Paris Express.
C'est pas vraiment une dystopie. Hein.
Non, exactement.
Non, on a des lignes prévues jusqu'à la 18, hein, je crois, dans les années à venir.
Ah, il me semble,
ouais.
Oui, peut-être. Oui,
oui. 15, 16, 17, 18. Ouais.
Ah oui, ça pourrait se produire, d'ailleurs. Hein. Je trouve que ce est très proche de la réalité. Mais c'est très cynique aussi, hein, comme
En plus,
comme
ils ont chacun, je veux dire, les SDF présents dans la pièce ont chacun leur personnalité. Il y en a un qui va se révolter, l'autre qui va mettre un petit peu la pédale douce, on va dire. Bon, et puis la jeune femme aussi qui elle aussi a son parcours. Ils vont apprendre avec la télé-réalité, ils vont apprendre à mendier.
Ah, parce qu'il faut apprendre.
Eh ben voilà,
parce qu'il y a une école de mendicité.
Oh, voilà, c'est horrible.
Avec une professeure voilà. de mendicité qui vont
apprendre. Oh non.
Comme un coach.
C'est oui, ça. Alors qu'en fin de compte, moi je trouve déjà, si on peut dire que quand on voit des gens dans la rue, moi ça, justement, ce que j'aime bien, c'est aussi une réflexion cynique. Mais cette idée qu'ils apprennent par cœur un discours pour s'adresser à des personnes qui sont dans le métro, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Enfin, ça me gêne parce que c'est vrai, quoi. On a envie un peu de simplicité, qu'on en a un peu marre, quoi. De la télé, tout bien ficelé, de l'intelligence artificielle. On en a vraiment marre. Alors, bon.
Non, mais là, en plus de ça, ce qui est drôle aussi dans la pièce, parce qu'il y a des moments quand il faut un défilé avec les pancartes ou un défilé pas de haillons, mais je sais pas. Alors, par contre, je serais très heureuse de revoir la pièce, puisque si vous avez apporté des modifications,
bah on y retournera ensemble.
On va y retourner ensemble de toute façon.
On va y retourner ensemble.
Notamment aussi sur les costumes et sur la scénographie, avec des petites surprises à venir. Donc, on sait pas trop si on doit dévoiler.
Ah,
mais
non,
mais est-ce que, quand même, au final, enfin, moi je l'ai pas vu alors. Évidemment, je me lance dans le
vide.
Est-ce quand même il y a une espérance, quelque chose de poétique qui surgit, qui fait que toute... Parce que moi, la télé-réalité, j'ai jamais aimé ça. Hein. J'avoue que je suis vieux jeu. J'ai détesté ça. Hein. Au point que quand la première fois qu'ils ont fait la télé-réalité, j'ai envoyé une lettre. Hein. Je sais plus, un journal pour me plaindre. Enfin, bref. La télé-réalité, c'est un truc qui me dégoûte. Hein, franchement, hein, j'ai un profond dégoût pour ça.
Nous aussi.
Ah, voilà, c'est pour ça qu'il y a une critique
Nous aussi.
De la télé-réalité.
C'est une critique de la télé-réalité et comment la mendicité pourrait être traitée. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série sur France Télévisions qui est passée sur le meilleur immigré. C'est une série qui vient de Scandinavie, je crois, où des immigrés se passent un concours devant des gens, devant un public. Et le meilleur immigré pourra rester dans le pays.
D'accord.
Et, voilà. C'est une critique voilà, de la société politique. C'est un peu l'idée, notre idée aussi. C'est par la télé-réalité de faire une critique de comment on invisibilise ce public.
Il y a eu un film, je me souviens, c'était avec quel acteur là
Le prix du danger.
Oui, voilà, le prix du danger.
Tout à fait. Ça nous inspire.
Voilà.
Mais
Michel Piccoli. C'est horrible.
C'est en 82.
Oui, mais il y a plus de 40 ans.
Je sais. Ça marche toujours, la télé-réalité.
Eh ben, c'est un film qui, ça.
C'est une chasse à l'homme.
C'est vraiment horrible.
C'est Running Man qui l'a
repris
avec Charles Denegger et puis.
Donc vous êtes un peu inspiré.
Oui, c'est des sources d'inspiration.
Qu'on a vu le film après avoir écrit la pièce. C'est après qu'on s'est inspiré plutôt qu'avant l'écriture, et on nous a suggéré de regarder ce film après coup. Quelqu'un qui est venu nous voir et nous a dit mais. Vous avez vu le prix du danger et donc on est allé voir ce film.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que vous êtes inspiré de choses personnelles que vous avez vues dans le métro aussi?
Bien sûr, oui, très souvent. De toute façon, on prend le métro tous les jours.
Dans le bus, on n'a pas ce genre de problème.
Beaucoup moins, c'est surtout dans le métro. Et comme on prend le métro tous les jours, on entend des discours, des personnes qui sont en train de faire des demandes. Et donc, pour le coup, ça nous a complètement... C'est ce qui a C'est ce qui nous a inspiré dans les discours qu'on avait pu écrire, mm-hmm. et dans la mise en scène et dans la scénographie aussi de notre pièce.
Mm-hmm. Oui, parce que
c'est l'inspiration quotidienne.
Comment tu as fait des lectures.
On oui, a fait des lectures sociologiques aussi, des études qui ont eu lieu à Paris sur justement des sociologues qui sont allés dans le métro et qui ont suivi les activités des gens qui font la manche dans le métro spécifiquement. Et nous, on s'est intéressés à ce type de mendicité qui ne se rencontre pas dans toutes les villes françaises. Mm-hmm. Et que moi, quand je suis arrivée à Paris, c'est vraiment ça qui m'a marqué comme type de mendicité.
Oui.
Propre au métro. Oui, voilà.
Les personnes qui font des discours.
Oui, les personnes qui font des discours.
Et pas que, parce que dans le métro, on voit bien qu'il y a plein de corporalités différentes, de postures différentes. C'est ça aussi qui nous a intéressé dans la pièce. C'est pour ça que vous pourrez voir qu'il y a. Bon, je ne veux pas trop en dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, dans le métro à Paris, sont allongées, ils ne demandent plus rien. Pourtant, ils sont dans la mendicité. Il y en a qui sont dans des formes de supplication, qui sont en train de prier, qui sont assis. Et puis d'autres qui sont debout, qui vont à la rencontre des gens. Mm-hmm. Donc en fait, sociologiquement, on a pu voir qu'il y avait des différentes catégories de professions de mendicité par rapport à la posture, à son corps.
Oui, à la mise en espace et donc une certaine forme de théâtralité. Dans la réalité de ces postures.
Et il y en a. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça de mendicité, ceux qui jouent de la musique dans les métros?
Ah, ça c'est autre chose, ça. C'est une forme. Hein.
On en parle d'ailleurs dans la pièce, oui, tout à fait.
Oui, parce qu'en plus, il y a les fameux musiciens du métro qui, eux, sont légaux. Et donc, on pourrait penser que notre pièce s'inspire aussi de ça. C'est poussé à l'extrême. Le fait d'être
ils le font maintenant,
professionnalisé.
On peut avoir sa carte de la RATP, musicien du métro.
Mais généralement, ce ne sont pas des mendiants, hein. Ce sont vraiment des musiciens.
Oui, là pour le coup.
Comment faire la différence quelque part, hein, pour le voyageur, il voit dans les couloirs du métro des musiciens, il ne sait pas s'ils ont la carte de la RATP.
Ils sont obligés.
Ils ont un badge. Oui, mais enfin bon, quand on court dans les couloirs de métro, on ne va pas les vérifier. Vous avez le badge? Non, quand même pas.
Et puis parfois, dans les espaces, il y a des lieux alloués pour pouvoir jouer.
À Montparnasse, je l'ai vu ça, oui.
Il y a des
notes de musique écrites par terre.
Donc on peut imaginer que c'est généralisé, ce fonctionnement, mais à tout le métro et aussi la ville.
Ce qu'on voit qui rentre dans les wagons, on voit bien que c'est des personnes qui n'ont pas d'argent, quoi, qui font la manche quelque part.
Et qui font un discours, comme vous dites, souvent répété. Mais parfois aussi, à la suite de leur discours, il peut y avoir un numéro, entre guillemets, artistique, avec des talents. Là, d'ailleurs, on développe cette idée de talent dans notre pièce de théâtre, où par le talent, par l'art qu'on propose, on peut aussi espérer, du coup, qu'ils peuvent espérer aussi avoir de l'argent par le public, parce que nous sommes toujours public.
Oui, alors il y a un côté aussi culpabilité aussi de la personne à qui on demande de 20 à 20 centimes, tout ça, qui est plongée dans son bouquin, qui ne veut pas lever le nez, quoi, c'est tout. Bon, je ne peux pas dire que ce soit des gens mauvais, de toute façon, mais c'est qu'il y a un peu un ras-le-bol, peut-être aussi.
Si on veut donner à tout le monde, il faut un budget, hein, j'ai envie de dire, parce que parfois on en voit plusieurs dans la journée. Les gens n'ont plus de monnaie non plus. Moi, je sais que je n'ai jamais de pied sur moi, il y a ça aussi.
J'ai entendu dire que maintenant, ils ont un système de carte bleue.
Ah, oui. Application,
mis en place avec
un QR code, on peut payer.
On peut présenter sa carte bleue pour payer. Oui.
C'est vrai.
Cela dit, moi, parfois, quand je vois un musicien ou une musicienne dans le métro, je ne suis pas mécontente parce que je trouve que la musique dans le métro, ça met un peu d'ambiance.
Oui.
Hein, franchement.
Quand c'est bien joué.
Hein, non, mais c'est vrai, quoi. Et je trouve que quelque part, ces gens-là, ils méritent un peu d'être rétribués. Parce que. Parfois c'est un peu sinistre le métro, c'est pas toujours, et ça met quand même un peu de ambiance.
Et souvent d'ailleurs, ça nous met de l'ambiance, on est content d'entendre cette musique, mais on ne réagit pas souvent, alors que on pourrait très bien réagir tous et applaudir. Il n'y a pas de mouvement où on remercie quelqu'un qui fait de la musique dans le métro, ça reste très intériorisé pour le voyageur qui le vit.
En fait, on se demande toujours est-ce qu'il faut que je donne.
Ce truc-là. Si tu applaudis, tu te sens obligé de donner.
Oui, c'est pareil. Les gens n'ont pas forcément.
Et puis le fait que ce ne sont pas forcément des gens qui jouent très bien, c'est pas le problème, justement. Nous, on a l'habitude d'applaudir quand on trouve que c'est super, etc. Mais c'est pas forcément des gens qui jouent très bien, même la plupart ne jouent pas très bien. où ils mettent une cassette, enfin il y a
oui,
un
cassette
truc,
à un fond sonore,
bon,
ouais.
Voilà, un fond sonore. Mais en même temps, justement, j'aime bien c'est parce que ce côté un peu amateur, quoi. Ce côté, ça pourrait être n'importe qui.
C'est ça qui nous a plu, oui. C'est ce que vous décrivez justement, ce côté amateur qui nous a plu dans le dans la façon de proposer un talent aussi. C'est ce côté amateur. Quand vous présentez un talent, bonjour, dit peut-être trop, mais...
Non, qu'ils ont des épreuves à passer, oui, justement, pour avoir la chance de quêter en toute légalité dans le nouveau métro avec vote du public. Et donc, ils ont une série d'épreuves, dont une épreuve talent. Voilà.
Ah oui, alors moi, ça, oui, c'est ça. C'est alors, ça perd un peu de... J'allais dire un mot qui ne va pas, mais innocence, quoi. Ça perd un peu de... Je sais pas, d'improvisation.
Ah ben oui, ils sont préparés à ça. Le but, c'est de draguer le public, en quelque sorte. Pour
oui,
que...
alors c'est ça. Alors là,
dis-donc, la coach, elle n'est pas aimable. Hein.
Ça, non, elle n'est pas aimable.
Ça perd tout charme, quoi.
Ah, c'est une émission.
Ah ben oui, c'est une émission.
Avec Audimat, etc.
Et
donc,
avec un ancien SDF, en plus, qui anime aussi le show.
Ah,
tout
ouais.
à fait.
Mais alors, toi qui as vu la pièce, oui. est-ce que... quel est ton sentiment alors, il y a... t'as eu de l'effroi,
Non, je me suis dit que ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire un jour une télé-réalité là-dessus, sur le thème. Ça m'étonnerait pas.
Ça t'étonnerait pas.
Ça m'aurait. Oui, non, ça m'étonnerait pas. À notre époque, non, pas du tout. Et cette espèce de cynisme et de trucs aussi un peu pleurnichard qui peut plaire aussi à des téléspectateurs. Hein.
Ah oui.
Ah oui,
d'accord.
La pièce elle-même, elle est très bien. C'est très bien joué aussi, de toute façon.
Vous jouez ou vous êtes auteur?
Nous deux, Laura et moi, nous avons écrit la pièce et nous trois nous jouons. Et en plus, il y a deux acteurs en plus. La fameuse coach qui est pas très sympa, non. Et un autre quêteur.
Voilà, un autre quêteur
de la communauté de la ligne 12.
Sébastien est le présentateur.
Voilà, je joue le rôle du présentateur.
Nous deux, nous sommes quêteurs. Il y a un troisième quêteur et il y a notre coach.
Oui. Ah, d'accord.
Le projet a eu plusieurs phases et on a eu des phases d'écriture collective.
Oui.
Mais avec Sébastien, on a eu l'initiative du projet. Et ensuite, on a construit avec des écritures de plateau, avec des écritures aussi de notre côté avec Sébastien. Donc, c'est pour ça. Là, on a notre troisième version.
D'accord.
Et vous n'avez pas l'intention d'inviter des quêteurs qui se trouvent dans la rue pour voir votre spectacle?
Alors cette question,
c'est une bonne question.
Oui, c'est une bonne question.
Oui, on se la pose
et on réfléchit pour faire ça bien.
Oui, pour pas les blesser.
Oui, ouais. Mais on y réfléchit, oui, bien sûr.
Oui, parce qu'on aurait peur de pas, on ne veut pas parler à la place des gens.
Oui.
Et c'est pour ça que on ne sait pas encore comment se positionner par rapport à ça, parce que là pour l'instant notre pièce s'adresse plutôt à des donateurs potentiels, à des voyageurs. Et on n'a pas encore répondu à cette question, mais on essaie d'être au plus proche de la réalité, parce que c'est vrai que le fait d'écrire, des fois, on se sent peut-être éloigné de la réalité, et on voudrait revenir à quelque chose de proche de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, il y a deux jours, on a fait un micro-trottoir, on a interrogé des gens, donc pour avoir des avis, des témoignages. Et cette année, moi j'aimerais bien, et puis ça, on en parle depuis longtemps, participer à des actions sociales, voire de l'humanitaire, ou parce qu'en fait, pas pour forcément l'utiliser comme matériau de la pièce, mais pour pas perdre la réalité et pour pouvoir justement mieux comprendre notre sujet.
Oui, parce qu'en fait, c'est quand même assez, assez complexe quand même. Je suppose que parmi tous les gens qui font de la... appelés quêteurs, Il y a plusieurs sortes de quêteurs. Hein, donc, moi j'ai pas d'études de sociologie à l'esprit, mais je pense qu'il y en a. Personnellement, j'ai un peu honte, mais ça m'arrive de donner, mais je privilégie les personnes âgées. Je veux plutôt que de quelqu'un qui est jeune, vigoureux, bien musclé, ça me donne pas trop envie. Je me dis, zut, celui-là quand même, il préfère un petit effort. Mais peut-être que je me trompe, il est peut-être bien en apparence, bien musclé, puis il a d'autres problèmes. Bon, c'est sûr, mais on peut pas donner à tout le monde. Alors,
mais
moi,
une personne de 40 ans qui vient, c'est déjà une personne âgée.
Oui, c'est vrai.
Comment ?
Une personne de 40 ans qui vit à la rue est déjà une personne
âgée. C'est déjà une personne âgée, c'est sûr. Ouais. C'est
et il y a moins de femmes aussi, peut-être.
Oui, c'est vrai qu'il y a moins de femmes. Mais il y en a.
C'est aussi pour ça qu'il y a une seule. Qu'il y a deux hommes et une femme. Puisqu'elles sont, je pense, moins présentes, mais après, là, je n'ai pas de chiffres en tête.
Non, mais
de toute façon, c'est je sais pas si c'est ouvert des portes ouvertes, enfin, je ne sais plus, mais vous appuyez sur un fond de misère, quoi. C'est les gens qui sont dans la rue, ce sont des gens qui sont abandonnés pour la plupart, hein, qui sont abandonnés.
Il y a peut-être un peu de tout, hein. Oui, c'est
oui, il y a peut-être un peu de tout, mais je crois que dans la majorité, ce sont des gens qui sont abandonnés, parce que quand on sait que dans les hôpitaux, les gens qui ont des problèmes psychologiques, même de santé, qui sont expulsés parce qu'ils ont 4000 euros de dette ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont très bien, mais qui n'ont pas le sens, enfin qui sont très bien, je veux dire, qui ont le sens de leur responsabilité, mais que la fatigue, la maladie, ils peuvent se retrouver à la rue.
Des histoires, voilà. Des histoires personnelles, familiales.
Et très vite.
Des divorces.
Alors, là, c'est vrai que l'histoire de la télé-réalité, ça. C'est un gouffre de.
Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, justement, la télé-réalité.
On voulait rendre ça cynique.
Oui, c'est cynique.
Parce que c'est joué sur le voyeurisme du téléspectateur, tout en sollicitant l'espèce de fausse bienveillance. Oui. Je vais voter pour des mendiants pour qu'ils puissent accéder à une mendicité un petit peu plus évoluée.
Voilà, en plus, il y a le défilé des pancartes aussi qui est pas mal. En plus, les encarts publicitaires aussi qui sont.
Et on voulait réfléchir à qu'est-ce qui suscite le don chez nous, en tant que public et en tant que voyageur. Qu'est-ce qui provoque le don? C'est pour ça qu'on a réfléchi à des critères pour évaluer ces personnes qui m'ont dit. Et par exemple, il y a des études sociologiques, et moi personnellement, je suis assez d'accord avec ça, on donne plus à des personnes avec qui on se sent proche. Par exemple, vous parliez des personnes un peu plus âgées, vous disiez ça. Je pense qu'on donne à des personnes à qui on pourrait se dire tiens, ça pourrait m'arriver, je pourrais être dans la même situation que lui.
Oui, en effet.
Et les gens qui sont très éloignés de nous, on a une sorte de rejet, une forme de rejet, et on a tendance à moins donner, alors que finalement, ils méritent tout autant.
Non, mais...
C'est juste que la forme est différente et qu'elle nous séduit moins.
Oui, puis on peut surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas donner à tout le monde.
Déjà.
Hein, c'est ça.
Oui,
hein, on est obligé de faire une sélection.
Une sélection.
Mais il y a quelque chose d'inconscient et d'inconscient qui se forme dans notre cerveau et qui crée ou non le fait de donner ou pas, je pense.
Oui, oui. Mais peut-être que si vous êtes auteur, moi, je trouve que ça aurait été pas mal de faire un pan, enfin, une partie télé-réalité. Et une partie réalité.
C'est le cas.
Ah, c'est le cas.
C'est le cas.
Ça commence sur la réalité.
Ça commence sur la réalité.
Ah. Justement, oui, on voulait montrer ce passage pour. Mais on ne reste pas dans la réalité. On se décale pour pouvoir critiquer.
Alors, critiquer la réalité, c'est celle des quêteurs.
Oui.
D'accord.
C'est ça.
D'accord.
La réalité se transforme sur le plateau.
Se transforme.
D'accord.
Et c'est l'espace de la critique, finalement, pour nous.
D'accord.
Je ne sais pas s'il y a le teaser, peut-être.
Il y a un teaser?
Oui.
Il y a le teaser de la pièce, Nicolas, s'il te plaît.
On va plancher une pendule si on gagne pas là-haut. C'est une émission de télé, putain. La grille t'a tout faire commencer parce que monsieur n'était pas foutu de respecter des critères qu'on nous rabâche depuis combien des semaines.
La seule communauté qui respecte les critères de la grille. Situation sans
cesse. C'est la chance de nos vies, cette émission. Tu veux retourner caler le constat de couchage sur des quais qui puent.
Ah oui. On ne vous entend pas trop parler dans ce teaser, mais j'imagine qu'il y a des...
Oui, il y a des images.
Il y a des images que j'ai revues, moi, oui. Oui, ouais. Les défilés des pancartes, oui.
Mais alors, on peut se demander, hein, Anne oui. et moi, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette pièce? Comment est venue l'idée parce que c'est quand même du travail.
Le moment où cette idée nous est venue.
Oui, mais je t'en prie, Laura.
On était à la terrasse d'un café à Paris. Et quelqu'un qui fait la manche est venu nous voir et nous a fait une demande, mais en faisant une sorte de pirouette sur lui-même. Et c'est là que nous est venue l'idée de se dire que, comme on disait précédemment, que toute demande est théâtralisée. Et donc, nous est venue cette idée de
mendicité et art. Essayer de trouver un lien entre la mendicité et l'art.
C'est ça. Pourquoi la mendicité? Moi, c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris, parce que je ne suis pas parisienne d'origine, et c'est vrai que j'ai été choquée par la précarité à Paris, et notamment la précarité dans le métro, que je n'avais pas connue. Moi, je suis toulousaine, et c'est vrai qu'il y a de la mendicité, mais c'est pas dans le métro, déjà, et une massification, justement, de la mendicité que... Et j'ai été touchée par ce sujet.
Et puis, que dans ce moment-là, il y a eu cette théâtralité de la demande qui nous a intéressés, et on s'est dit qu'on pouvait être, justement, du coup, en faire un objet théâtral. Mmh. Et surtout, on s'est dit que c'était un sujet qui n'était pas du tout traité à la mendicité. Non, que ce soit dans le cinéma, dans la peinture, dans les arts, c'est un sujet qui est souvent satellitaire.
Oui, mais
que
c'est en marge.
Ce n'est pas le sujet central d'une œuvre.
En tout cas, à l'heure actuelle.
Et on trouvait ça intéressant d'en faire
Brecht,
un sujet.
Parce que Brecht, il a fait un sujet, il l'a mis au centre, par exemple, les marges. Mais c'est vrai qu'actuellement, on trouve moins...
Mais à la Cour des Miracles, de chez Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris.
Oui, c'est vrai. Mais...
Voilà, c'est pas central, peut-être.
Non, c'est pas central, mais enfin...
Et on s'est dit que c'était intéressant de traiter de ce sujet-là uniquement.
Ou alors, bon, peut-être qu'il y a des auteurs qui en ont parlé, certainement. Hein,
parce
la mendicité, malheureusement, je crois que ça fait longtemps que ça existe. C'est pas de ce siècle, ça a toujours été. Malheureusement aussi, on peut le dire.
C'est vrai que c'est pas glamour. Donc en faire
non, c'est pas glamour.
Le centre d'une pièce.
Ça peut faire peur à des personnes quand on parle de ce sujet. Il faut souvent expliquer le contexte pour que les gens aient envie de venir voir la pièce.
Oui.
On doit se justifier beaucoup sur le sujet.
Oui.
Sinon,
Et la forme théâtrale que le sujet prend.
Oui, je pense que le fait que ça ne se passe pas à l'heure actuelle, ça rassure les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi
Il y a cette idée de rassurer, obligé, sinon il n'y a pas de spectateur. Enfin, il y a un risque.
Il y a un risque de misérabilisme sur la question. Ouais. Le fait que je pense que les personnes ont peur que. C'est ça, du misérabilisme du sujet. Mais alors que c'est pas notre cas, c'est pas ce qu'on.
Oui. C'est aussi un miroir qu'on tend au spectateur qui peut être malaisant.
Aussi.
Oui.
Parce que
c'est un côté provocateur, le synopsis de cette pièce, c'est très provocateur.
Parce que justement, les gens dans le métro ou ailleurs évitent beaucoup la mendicité. Les gens qui sont sur leur portable, etc., qui ne donnent jamais rien. Et là, ils sont confrontés à la pièce qui dure une heure et quart, et ils ne voient que ça, quoi. Et ça peut être compliqué, un peu gênant, quoi, de voir ce qu'on ne peut pas voir
déjà
dans la
que
vie.
Les spectateurs et spectatrices, enfin, le public a parfois du mal à se déplacer, effectivement. C'est vrai, on vit une époque où beaucoup, j'ai plutôt envie un peu de se distraire que de se plonger dans des problèmes de société, quoi.
Oui, on ne sort pas non plus en chialant. C'est intéressant. Je vous dis, il y a des petites pointes d'humour, de cynisme aussi, bien sûr. Non, c'est intéressant parce que déjà, en plus, en effet, ça sort un peu des sorties battues de ce qu'on voit. Parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol des pièces sur Alzheimer ou sur le cancer. J'évite. Moi,
Toi, tu évites. Oui.
Voilà.
Ça fait partie de la vie aussi.
Et
hein.
Ça fait partie de la vie.
Parce que il faut comprendre pourquoi faire des pièces de théâtre. Sinon, parce que c'est un besoin quelque part. Il y a une urgence quelque part. On se dit, j'ai quelque chose. Enfin, nous avons quelque chose à dire, quelque chose. Ce sont Vous êtes des lanceurs d'alerte, quelque part. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc, rendre visible aussi, c'est ça notre objectif.
Et parfois, on a même des retours de spectateurs qui nous disent, alors je ne sais pas si ça change vraiment la donne au final, mais qui en tout cas, ne regardent pas la réalité après, et forcément de la même manière. Et ça, déjà, bon, c'est un petit truc, mais c'est déjà pas mal. Mmh.
Souvent, ouais. on nous l'a dit. On a souvent des personnes qui nous ont dit, bah, le lendemain, j'ai pris le métro, j'ai pensé à vous. Parce qu'on ne conscientise pas, finalement, on ne conscientise pas la manière dont on donne ou qu'on regarde les gens qui font la manche. Oui. Et ça permet de conscientiser davantage notre
D'ailleurs,
rapport.
Oui, en effet, c'est vrai que quand on voit bien dans le métro où on donne vite fait sans regarder la personne parce que bon, vite, il faut qu'elle se barre tout de suite. Bah, non, mais c'est vrai, il y a un peu de ça aussi quand même. Il y a un peu de... Bah, j'ai pas de la peur, mais enfin bon, on est de la gêne. Oui,
parfois,
c'est vrai.
Il peut y avoir de la peur, hein, parce oui, qu'on sait jamais. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui sont tombés dans la toxicomanie ou très alcoolisés.
Oui,
ça peut
faire
peur à des gens.
Oui, ça peut être tout à fait, tout à fait.
Oui. Oui, oui.
Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi ce regard du public, enfin de nous, quoi, quand on prend les transports en commun, hein, le RER, le machin, tout ce que tu veux, le métro.
Et alors, est-ce que. Donc, la première a eu lieu il y a quelques mois.
Bon, en avril-mai, c'était. Oui, la première était début avril. Ouais.
Et
sachant qu'on l'avait déjà joué.
L'année d'avant,
la première fois dans un autre théâtre. On avait testé la pièce en quelque sorte sur deux représentations en mai 2025. Au théâtre de l'Orme.
Oui.
Voilà. Et là, on l'a vraiment reprise pendant deux mois au théâtre du Gouvernail en avril-mai cette année.
Ah là, et vous avez eu un bon retour des critiques et du public. Il y avait du monde.
Oui, on a bien rempli. Et après, on a eu des bonnes discussions justement après chaque représentation. Mm-hmm. On avait des discussions avec les spectateurs qui ont été très intéressantes.
Ouais. On a eu plein de retours.
Des retours.
C'était hyper intéressant et on a eu des retours positifs. Et puis, oui, on a eu des bons avis aussi sur Biréduc, ça peut nous aider.
Et puis,
certains critiques. Voilà. Merci d'être venu nous voir.
Les critiques du Figaro, du Monde.
On n'est pas encore là.
Mais...
Luma
ou tout
Télérama,
ça.
Télérama.
J'écris, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Donc,
C'est difficile de faire se déplacer ces braves gens parce que, en fait. Souvent, j'ai entendu dire, parce que j'ai rencontré quelques journalistes, ils privilégient autre chose que les pas sur le théâtre. C'est-à-dire que s'il y a d'autres urgences, par exemple le Monde, il y a d'autres urgences, eh ben, ça passe à l'as. Ça passe à l'as.
Non essentiel.
Voilà.
C'est sûr. Alors, est-ce qu'on leur fait dire un passage du texte?
Ben oui.
Si, hein, allons-y. Alors, vous avez dû choisir, parce que vous avez prévenu.
Oui, on y a réfléchi.
Voilà.
C'est que moi.
C'est
un monologue.
Allez-y.
J'ai toujours galéré. Même avant de sombrer, j'avais déjà perdu la garde de mes enfants à cause des pensions que j'arrivais pas à payer. Mais la dernière pandémie, là, vous savez, en 2052, là, ça a été terrible. Terrible. Le restaurant a fermé. Moi, je suis tombé malade. Et quand j'ai voulu retrouver un emploi, après, il n'y avait plus rien pour moi, nulle part. Pourtant, j'ai cherché un joujou, j'étais motivé, j'allais partout. Mais rien. Vous réalisez pas à quel point on peut vite basculer. Alors bon, j'ai essayé un truc, j'ai tenté d'être artiste de rue, parce que j'avais toujours rêvé d'être clown. Mais ça n'a pas marché, je me suis fait jeter de partout. Les bars, les restaurants, tous ces endroits où je travaillais avant, ils voulaient pas de moi, ils disaient que j'importunais la clientèle en terrasse, que j'avais pas d'autorisation, certains disaient que j'avais l'air trop triste pour être clown, qu'un clown c'est censé être drôle, puis il y a des gens qui ont peur des clowns aussi. La coulrophobie, ça s'appelle. Donc finalement, je me suis dit que faire la manche dans la rue, sans bouger, c'est encore ce qu'il y avait de plus pratique. Mais vous savez ce que c'est, non? Les gens vous passent devant, trop pressés, ils vous voient pas. Enfin non, ils veulent pas vous voir. Parce que vous êtes comme une tache dans le paysage, alors autant rester invisible à leurs yeux, n'est-ce pas? Autant rester invisible à vos yeux. Parce que c'est là que j'ai disparu de la surface. Je suis descendu dans le métro. Alors j'ai commencé par une ligne un peu chic, hein, la 21, propre, récente, automatisée, qui passe par des beaux quartiers. Puis je me disais que là, c'est moi qui allais me déplacer devant les gens, et eux qui seraient à l'arrêt. Mais même là, ils refusent de nous voir, ils refusent de donner. Ils ont la tête baissée sur leur portable, sur leur bouquin. Puis ils se décalent quand on passe à côté d'eux, là, comme si on avait la lèpre. Puis de toute façon, quand la communauté de la 8 a gagné la grille il y a 3 ans... Ils ont tous déboulé dans la 21. Tous, sans exception, ça faisait partie de leur récompense. Donc, forcément, moi, Je pouvais plus quêter la balle également, alors on m'a relégué sur la 12. Merci. Hein. Merci du cadeau. Une ligne toute pourrie, toujours en travaux, qui plante tout le temps. Alors ça énerve les usagers qui ont encore moins envie de donner. Oh, vraiment, vraiment, mesdames et messieurs, je vous en supplie. Je veux gagner la grille ce soir avec les membres de ma communauté pour avoir un vrai statut légal de quêteur et tous les avantages qui vont avec.
Alors c'est bizarre de le faire à la radio, mais j'adore. Hein, c'est...
Ah oui, parce que...
Bah ouais,
c'est... Mais de toute façon... Il y a des pièces qui peuvent être devenir radiophoniques. Ouais, hein. Moi, je pense que c'est une pièce qui pourrait être devenir radiophonique. Peut-être. Et puis, vous mettez des... Enfin, un plus. C'est pas que radiophonique, mais un plus avec toutes sortes de bruitages.
Oui, c'est bien déjà sur scène. Hein.
Oui.
Un podcast. Et qu'on aura plus en plus.
Les bruitages, c'est très, très bien. Mm. Et je trouve que vous avez une bonne voix radiophonique. Hein, ça...
Non, on l'a déjà dit.
Ah, oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est pour ça qu'on t'a choisi.
Oui, en tout cas, on a un univers sonore qui est très développé. Oui, et on a travaillé avec un artiste qui est musicien. Et donc, les musiques sont des musiques originales.
Oui, toutes les musiques sont originales.
À part Elvis Presley, qui n'est pas...
oui, bien sûr.
Voilà, on a... Mais,
oui, les musiques sont toutes originales, bah oui, sauf ce que tu disais, Elvis.
Donc c'est Pierre Facchi qui a fait les
musiques,
qui a composé. Et là actuellement on va aussi collaborer avec un nouvel artiste
qui lui s'occupe de la vidéo, parce qu'on va sans en dire trop, on va ajouter de la vidéo.
Ah, c'est très bien.
Dans la pièce.
D'accord.
Voilà. Oui. Donc
mais vous allez la gagner, la télé-réalité, vous allez voir. Hein. C'est bien. Ouais. Alors on signale donc la mise en scène et l'écriture, Laura Zerbib et Sébastien Scholl. Aide à l'écriture, Jean-Baptiste Coupe et Axel Ruche.
Ouais.
Donc les costumes, si on peut dire, sont de, c'est le collectif, quoi, je veux dire.
Oui.
D'accord.
Mais qu'on va faire évoluer aussi.
Qu'on va faire évoluer aussi avec parce que l'émission va avoir son identité visuelle, donc on va changer l'identité de la grille.
D'accord.
Et peut-être que les costumes vont reprendre cette nouvelle identité mm-hmm. visuelle que vous aurez dans cette nouvelle version de la grille.
D'accord. Bah, de toute façon,
et peut-être qu'on peut citer aussi les deux autres acteurs.
Oui, bien sûr, excusez-moi, oui. Alors Amel
Belaïboud,
voilà, et Stéphane Ouabab.
C'est ça.
Bonjour, Franck Desmet.
Bonjour.
Didier Bailly.
Tout à fait,
je vous présente les comédiens de La Grille qui vont jouer au Théâtre Clavel en septembre. Ah, et donc une pièce très intéressante sur la mendicité dans la télé-réalité.
Voilà.
En 2005. Oui. Bah, tiens,
ça pourra vous intéresser parce que Monsieur Desmet est le directeur du théâtre
J'arrête pas de passer devant le théâtre Clavel.
Ah ben, parfait.
Voilà.
Passez au bon moment.
Voilà. Eh bien,
merci.
Merci, hein, merci pour le passage.
Merci, merci.
Alors, très sympa.
Anne et moi, on passera le 24 septembre.
Allez, voilà, très bien. Du coup, je vous réserve deux places, c'est ça?
Oui,
voilà,
très bien.
Se retrouver dans la rue, pas difficile. Honteux de sa main tendue, pas difficile. C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade, où on glisse peu à peu des gringolades. Il suffit d'un matin gris bien ordinaire, d'une lettre qui vous dit y a rien à faire. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer. Il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance. Drôle de danse, j'y pense. Dormir sur un coin de quai, pas difficile. Une inscription à la craie, pas difficile. Plus de maison, plus de chaud et plus de place. On ne donne pas de boulot à cette crasse. Plus de boulot, plus de sous et plus de piole. C'est une histoire de fou, pas vraiment drôle. On ne peut pas vous laisser, car le métro va fermer. On ne peut rien vous donner pour que vous alliez vous saouler seul. quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Se retrouver en prison, pas difficile, votre mère avait raison, pas difficile, prendre un peu ce qui est là, qui fait envie. Et qu'on ne vous donne pas, vive la vie. Vous glissez sans le savoir, drôle de drame, au filet du désespoir pour quelques grammes. On ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas vous pardonner, faudra vous habituer seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Passer sans se retourner, c'est trop facile. Dire qu'on n'a pas à donner, c'est trop facile. Penser qu'on est différent parce qu'on est propre. Quand le malheur mécontent nous apostrophe, c'est ignorer qu'un matin, demain peut-être, on peut la tenir en main, la triste lettre. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. Ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense, j'y pense, j'y pense, j'y pense.
Radio Libertaire de Sous-de-Seine. Notre premier sous, c'était pour le théâtre Clavel. Le deuxième sous maintenant, au théâtre de la Huchette.
Voilà. Alors, on avait dit qu'on ferait un spécial UNESCO. UNESCO. Bon, c'est une moitié UNESCO. Bon, c'est pas grave. On est content de vous voir parce que... Alors,
d'accueillir
Franck Desmet.
Ben, bonjour et merci. Merci de nous recevoir.
Donc, directeur du théâtre de la Huchette, ce qui n'est pas rien, franchement. Et Didier Bailly, comédien, de La Cantatrice Chauve.
Voilà. Tout à fait.
Didier Bailly, je le dis avant parce qu'il ne le dira jamais, mais Didier Bailly, on lui doit beaucoup parce que non seulement il est comédien à la Huchette, mais il est responsable de la tenue de ces deux spectacles, enfin de La Cantatrice Chauve, et c'est un créateur avant tout. Donc il compose aussi des musiques que vous pouvez retrouver dans beaucoup de comédies musicales à la Huchette, puisqu'en troisième temps fort, on a des spectacles musicaux. Et donc Didier, on lui doit beaucoup, aussi bien dans la tradition que sont les UNESCO, que dans la création à 21h.
Ah, très bien.
Ah, d'accord. C'est vrai que, pour parler de Cantatrice Chauve et de La Leçon, de UNESCO, qui se joue presque tous les jours. Hein.
Oui, du mardi au samedi. Oui, 19h la cantatrice et 20h la leçon.
Voilà. C'est souvent en alternance. Hein.
Ah bah c'est toujours.
Les comédiens sont en alternance.
C'est-à-dire, on est à peu près 5 comédiens par rôle. Et donc, on a un planning qui est organisé très à l'avance. Et on sait qu'on va jouer le mois prochain. En général, on fait... toutes les deux semaines, souvent. C'est-à-dire, la même équipe va jouer pendant 2 semaines. Et puis après, ça change. Mais on peut jouer une semaine aussi. Enfin, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il n'y a pas 5 équipes. Il y a 5 comédiens par rôle. C'est-à-dire que vraiment, on a énormément de possibilités, vous voyez. Et c'est d'ailleurs ça qui aussi nous permet de garder une certaine fraîcheur, parce que même s'il y a une mise en scène en béton et très, très respectée...
Qui date, la mise en scène
1950.
Oui, quand même.
1950, pas à la Huchette d'ailleurs, mais à la création, c'était 50 et 51 la leçon. Et donc, ça permet, en changeant de partenaire, d'avoir quand même des petites choses un peu différentes. Chacun oui. apporte sa personnalité, bien sûr.
Ah oui, oui, mais ils sont bien rodés quand même.
Pour ils sont rodés un peu. Oui. Un peu, mon neveu. Absolument, oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Oui, oui.
Et puis, chaque semaine, surtout, le mardi, on a une petite séance de répétition chaque semaine avec tout le monde pour remettre bien les intentions, de ne pas oublier. Parce que c'est un tout petit peu, évidemment, la difficulté d'un spectacle qui se joue depuis si longtemps. Mm-hmm. Il faut que les acteurs gardent une fraîcheur et une spontanéité, bien sûr.
Et le plaisir de jouer, c'est ça.
Et le plaisir, ça, je vais vous dire, ça c'est moi qui, c'est mon point de vue, mais vraiment, moi j'ai fêté ma 2500e le 15 août.
Oh là 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 là.
Et bon, en 40 ans, hein, en 40 ans.
40 ans.
Oui. Et je dois dire que je suis toujours émerveillé chaque soir d'écouter, d'entendre ces répliques. Et alors, il y a des fois des répliques qui sonnent plus que d'autres un soir. Mais des choses comme la pendule, elle marche mal, elle donne toujours le contraire de l'heure qu'il est. Des expressions comme ça, poétiques, c'est tellement merveilleux. Le contraire de l'heure qu'il est, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. J'adore ça. Ça, on ne peut pas.
Oui, et puis, alors, c'était très bizarre, parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, la cantatrice chauve. Mais il y a une ambiance, on a vraiment l'impression qu'il y a un tic-tac quelque part. Hein,
c'est vrai.
C'est incroyable. C'est pour ça j'ai écrit un petit article et je disais que le théâtre de la Huchette, c'était un monument. En soi, c'est pas un monument parce que c'est extérieurement, ça n'a rien de ça ressemble pas à l'Arc de Triomphe. C'est pas ça que je voulais dire, mais il y a quand même, c'est un théâtre qui a de l'âme.
C'est un petit bijou.
Ouais, il y a une âme à l'intérieur. On ressent. On se dit, mais il y a toute cette foule d'artistes qui ont joué et ils ont laissé une trace quelque part dans la salle.
C'est pour ça que Camus disait que le théâtre, c'était la maison de l'homme, mais la Huchette, c'est la maison des acteurs. C'est la maison des comédiens. Ils sont tellement nombreux à s'être succédés dans les personnages, dans les rôles, à avoir marqué pour certains profondément ce lieu. D'ailleurs, ce lieu est chargé. Quand vous rentrez pour la première fois à la Huchette, vous le sentez.
Oui.
Moi, je suis plutôt quelqu'un de cartésien, de rationnel. Ça, mais je peux pas faire abstraction de ça. Il y a des gens qui sont passés ici avec de très fortes personnalités et qui ont marqué de leur empreinte, de leur voix, de leur présence, ce petit lieu qui est un lieu mythique parce que il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Gonzague Philippe, qui est administrateur de ce lieu et à qui je voudrais rendre hommage parce que il ressort constamment l'histoire de ce lieu dont vous parlez. Et cette histoire nous permet d'être un petit théâtre fragile mais extrêmement riche en même temps. Parce que cette petite histoire, on en parle, on en est fier, et surtout, on la révèle au public.
J'ajouterais même que quand on fait des auditions pour, ça nous arrive d'avoir besoin d'un nouvel acteur, on a eu des réactions incroyables d'acteurs qui nous disaient, après l'audition, on disait bon, on vous tient au courant. Oui, mais de toute façon, avoir passé une audition sur ce plateau, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait.
C'est merveilleux.
Oh là là, ça
il
fait
paraît
plaisir.
Que Ionesco avait son droit de veto. J'avais fait une visite en 2017 pour les 60 ans de. Oui. Et une des comédiennes nous disait, mais j'avais dit à un de mes amis de comédien de venir passer une audition et il n'avait pas été accepté par Ionesco. Ionesco avait son droit de veto sur les comédiens ou comédiennes qui devaient passer, jouer ses pièces. Hein.
C'est possible, moi je ne l'ai pas connu très longtemps, mais il venait souvent quand même. Oui. Alors peut-être que ce droit de veto, c'était peut-être à une époque où il était vraiment très 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 présent au théâtre Nicolas Bataille. Oui, tout à fait. Oui.
Et alors, pour dire, alors j'avais visité pour les loges et il y avait les cartons à chapeau avec les noms des comédiens dessus. Et il paraît qu'il y a un touriste italien qui était venu. Il avait pensé que c'était les cendres que vous gardiez.
Des acteurs morts. Absolument.
Voilà, des acteurs morts.
Quelle horreur.
C'était pas un touriste italien, c'était un journaliste qui a vu ça. Et comme les boîtes étaient noires, il dit mais vous conservez les cendres des acteurs morts.
Non, mais c'est horrible.
C'est joli. C'est joli.
C'est pas mal quand même.
Oui, non, mais c'est pas mal. Mais en fait, un théâtre, c'est pas un cimetière.
Hein, et puis surtout, le caveau de la Huchette, c'est pas c'est un peu plus loin.
D'accord. Mais il y a des gens qui ont le droit d'esprit.
C'est un théâtre fantastique parce que c'est un théâtre de tradition et de création.
Oui.
De tradition avec les Ionesco, et ça, c'est ce qui fait la force aussi de ce lieu, d'avoir une troupe. La troupe, c'est la dernière grande utopie. Hein, dans un lieu, il n'y en a plus des troupes, à part la Comédie Française. Mais là, il reste une troupe. Et puis de création, parce qu'à 21h, il y a un spectacle qui change lui régulièrement au gré du succès qu'il rencontre. Et on reste très très audacieux. Je mets un point d'honneur à ça pour faire en sorte que la tradition, la création se démarque totalement des deux Ionesco en face.
Oui, tout à fait. Oui. Mais en même temps, je sais pas, peut-être c'est peut-être une vue d'esprit, mais pour moi, la cantatrice chauve, la leçon, j'ai pas senti que ça avait vieilli.
Ah, pas du tout.
Hein, ça n'a pas vieilli. Hein, on dit que c'est du classique, mais
vous savez, c'est extraordinaire les réactions du public en rapport avec l'actualité, par exemple. Hein? Là, il y a un moment où on dit le pompier qui dit est-ce qu'il y a le feu chez vous. Alors, cet été,
c'était quelque chose.
Et alors on dit non, ça ne sent pas le roussi. Bon, voilà. Bon, ça. Bon, le rapport à la violence faite aux femmes, par exemple. Hein? Mm-hmm. Il y a une réplique de Monsieur Smith qui s'énerve auprès de Madame Smith et qui dit mais je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas répondre à toutes tes questions, idiote. Avant, ça faisait rire beaucoup. Maintenant, il y a un silence. Il y a quelque chose. Il y a une phrase quand même extraordinaire. On s'empêtre entre les pattes du prêtre. Mmh. Je veux dire qu'au moment où il y a eu toutes ces histoires de pédophilie et tout ça. Enfin, c'est marrant comme une pièce comme ça. Enfin, je pense que c'est valable pour d'autres pièces, mais cette pièce qui dresse un espèce de portrait de société, il y a tout d'un coup avec le temps des références à l'actualité qui sont extraordinaires.
Bah oui, parce que l'être humain,
Ionesco est le seul auteur qui, de son vivant, est devenu classique.
Oui, il est classique. Il est classique parce qu'on l'étudie à l'école, il est classique parce que ça fait longtemps qu'il est sur scène. Voilà. Mais effectivement, dans la réalité, et puis même le fait qu'on sache que ça date un peu, que les premières ont eu lieu dans les années 50.
Les 50, oui.
Ça donne du poids aussi, quelque part, le fait de savoir que ça a commencé à être joué dans les années 50. Et on se dit, quand on va voir ce spectacle, c'est comme si on soupesait un peu de poids des années, et qu'on ressentait un peu l'évolution qu'il y avait eu depuis.
Mais vous savez, il y a ce metteur en scène qui avait créé un spectacle qui faisait grincer des dents. Et il a dit à la fin de ce spectacle, où les gens étaient très partagés, certains adoraient, d'autres n'aimaient pas du tout, ne vous inquiétez pas, il faut attendre que la poussière se pose sur les meubles.
Voilà, ça devient du bon vieux vin.
La cantatrice a été créée, je crois qu'au départ ça toussait, hein, parce que les gens pensaient que c'était une fumisterie, d'autres étaient furieux, les gens sortaient, etc. Mais ce spectacle étant absolument génial, à la fois dans l'écriture, dans l'interprétation et dans la vision qu'avait le metteur en scène à l'époque de ça, c'est resté, et si c'est passé à l'épreuve du temps, c'est pas pour rien. Il y a, beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer.
Oui, mais en même temps, quand je dis le spectacle en soi, la pièce n'a pas vieilli, mais c'est intéressant de voir cette petite dame, Madame Smith, là, ça pourrait être notre grand-mère ou arrière-grand-mère. Hein. Enfin, pour moi, c'est la grand-mère, parce que j'ai pris de l'âge. Mais c'est ça aussi. On se dit, mais ces vieux-là, là, ce sont nos ancêtres, quelque part. Et les ancêtres, ils font partie de notre présent aussi. Hein.
Et puis, il y a la fille de Jeanne Ionesco, Marie-France, qui est une universitaire de haut vol et que j'aime beaucoup, m'a expliqué que quand il écrivait la leçon, il avait parfois des haut-le-cœur, et que pour lui, c'était terrible d'écrire un spectacle comme celui-là, parce que c'était sur son rapport à la mort. Donc il y a aussi un sous-texte dans ces textes-là, qui ont différentes grilles de lecture, qui parfois... alors qui reste intemporel, hein. C'est pour ça que la leçon, vous pouvez le voir dans 30 ou 40 ans, ça restera quelque chose qui questionnera sur l'après. C'est pour ça que l'élève arrive à additionner et pas à soustraire. Il comprend la venue au monde et pas l'abstraction, et pas le néant, et pas le départ.
Oui.
Donc toutes ces questions-là qui sont saillantes et qui parfois arrivent à la surface avec un texte qui, lui, peut être interprété de différentes façons par le public, font que ces deux spectacles reste intemporel et nous touche.
Oui, parce que grâce...
D'ailleurs, Didier doit constamment dire aux acteurs ce que ce texte révèle.
Oui.
Ah oui, d'accord. Bah,
bien sûr.
Oui, d'accord.
Pour
oui,
pas que les choses soient sans intention.
Oui, bien sûr. Oui.
Ce qui est assez miraculeux, c'est que grâce à l'écriture qui a l'air fantaisiste et qui a l'air de n'importe quoi, parfois, les dialogues entre... par exemple, dans la leçon, on se dit, mais... Il est cinglé, enfin, il y a des moments où on se dit ils sont cinglés, mais ça met en valeur quand même une histoire justement, de vie et de mort entre l'élève et le professeur. C'est quelque chose qui vous prend de surprise. Enfin, je veux dire, ça vous met un certain haut le cœur. Ça vous imprime. C'est quand même un drame.
Drame.
Mais pendant toute la...
il paraît qu'au départ, UNESCO était furieux que les gens rient autant. Il se demandait pourquoi les gens riaient à ce point à l'écoute de ces deux spectacles. Et d'ailleurs, il disait, je n'ai jamais bien compris la différence entre la comédie et la tragédie. La tragédie, pour lui, c'était une comédie qui ne faisait pas rire. Mais la dimension sacrée qu'il y a dans la tragédie, c'est quelque chose qu'il n'évoquait pas, en tout cas.
Alors qu'il avait fait aussi les contes de Ionesco pour sa fille, je crois.
Qui ont été joués. Mis en scène d'Émilie Chevrillon.
C'était très drôle.
À la Huchette, absolument.
Oui, ça c'était bien, très très bien.
Ouais. Donc moi je, c'est vrai que je, retrouvant la leçon, j'ai été... il faut dire que le jeu des acteurs est très important.
C'est quelque chose.
Le jeu des acteurs, c'est vraiment très très important. Moi, j'étais scotchée. J'avoue que. Alors, l'actrice chauve aussi, mais la leçon, comme il n'y a que deux interprètes, c'est plus ramassé comme dramaturgie. Donc, et c'est vrai que j'étais scotchée par ce duel entre l'élève et le professeur. Ça m'a. Surtout que chaque personnage est bien étudié en plus. Enfin, je veux dire, est bien. Il y a une profondeur aussi bien dans le personnage de l'élève que dans celui du professeur. On sent des existences. Ce sont des personnes qui vivent. C'est pas des schémas, c'est pas des silhouettes. Ce sont des personnes vivantes quelque part. Et on a l'impression d'assister à un drame pour de vrai quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très prenant.
C'est pas un théâtre sous prétexte qu'on le qualifie d'absurde. C'est pas un théâtre qui est basé sur des absurdités. Il y a une profondeur toujours, et sa grande force, c'est sa poésie. C'est qu'il arrive, par exemple, dans Rhinocéros, il arrive à tout d'un coup à parler de tous ces gens qui deviennent qui deviennent tous les mêmes, qui suivent la même pensée, etc. En transformant petit à petit des gens en rhinocéros, ils deviennent tout d'un coup tous c'est conventionnel, etc. Dans les chaises aussi, l'absence il y a une sorte de métaphore avec l'abondance de chaises et l'absence de personnes. Donc il y a toujours une vision poétique dans ce théâtre, mais qui peut s'interpréter de différentes façons. Dans La Cantatrice, alors, La Cantatrice, je sais pas, peut-être qu'elle a plus de succès parce qu'on est six et que c'est un petit peu... Il y a une sorte de chorégraphie. Elle est peut-être plus accessible directement que La Leçon qui demande quand même, qui est assez violente et qui demande... Bon. Mais il y a une violence quand même dans La Cantatrice. Hein. Ça a été écrit après la guerre. Donc, il y a ces gens, ces bourgeois qui sont là chez eux, qui ne savent pas trop de quoi se parler. C'est déjà deux couples qui ne se parlent plus vraiment. Les Smiths se disent des choses sans s'écouter. Et puis les Martins, ils se retrouvent 30 secondes. Ils se perdent de vue 30 secondes en rentrant dans un salon. Et quand ils se regardent, ils ne se reconnaissent plus. Ils ne savent plus qui ils sont.
Ah oui, mais ça ne m'étonne pas.
Voilà,
ça ne m'étonne pas du tout.
Voilà.
Parce que dans la réalité, c'est ça. Hein.
Mais voilà, une fois, on a eu une salle de filles. Je me souviens, un lycée de filles. Et pas un rire de tout le spectacle. On s'est dit, comment ça se fait? Et à la fin, comme il y avait un petit débat, on a demandé aux élèves, qui avaient probablement travaillé la pièce, bien sûr. Et elles nous ont dit, ah, mais c'est pas drôle du tout parce que on a pensé à nos parents ou aux parents des amis qui n'ont plus rien à se dire ou qui divorcent ou qui sont là. Elles avaient travaillé sur le fond de la pièce. Hein, voilà. C'est quand même des gens qui assassinent leur bonne parce que tout d'un coup elle vient les gêner. Alors on dit que Ionesco n'est pas un auteur politique, c'est vrai qu'il n'a pas tellement été politique, mais quand même, c'est quand même des bourgeois qui, gênés, vont assassiner leur bonne parce qu'elle connaît le pompier. Enfin, il y a toujours quelque chose derrière évidemment de la vie, quoi. Hein, c'est après la guerre. Le pompier vient demander à ces gens s'il y a le feu chez eux. Hein, c'était quelques années après la guerre. Est-ce que vous cachez des juifs? Oui. Ça pourrait être. Est-ce que vous avez de la drogue? Est-ce que on peut interpréter chaque chose de différentes manières et suivant les époques. Mais il y a toujours quelque chose de profond au-dessus de cette absurdité de surface.
Oui, oui. Moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer Ionesco. Mais c'était quand même quelqu'un qui... Je crois que c'était un philosophe aussi, Ionesco. Hein. Il a écrit des textes où il réfléchissait beaucoup. Hein. C'était quelqu'un
bien
qui...
Bien sûr.
Ah oui. C'était pas...
Il n'a pas eu une vie facile. Hein. Il est venu de Roumanie. Ils ont mangé de la vache enragée quand ils étaient en France. Et il travaillait dans une petite librairie. Il était libraire. Il travaillait dans une petite librairie. Il n'avait presque rien, quoi. Et je veux dire, c'est quelqu'un qui a une expérience de vie difficile. Et puis tout d'un coup, ce génie de l'écriture. En plus, il écrit en français. Hein. Il était roumain, quand même, d'origine.
Oui, mais elle a quand même vécu jusqu'à 14 ans en France.
Oui, c'est bien. Oui.
Il était bilingue, à mon avis.
Oui, il était bilingue, de toute façon. Voilà. Oui. Mais bon, il a.
Il a au moins été honoré aux Molières.
Oui.
Il y a bien, bien longtemps, mais je me souviens qu'il avait...
Oui, tout à fait.
Oui, il avait un discours qui était très long. Il semblait quand même déjà un peu fatigué, Molière, un petit peu, légèrement.
Oui, bah, je pense qu'il devait être très âgé.
Très âgé, d'ailleurs. J'aimerais bien revoir ça.
Je crois qu'il y avait
Elvire
Popescu aussi dans le...
Ah, c'était cette même année?
Il me semble bien. Ah, oui. De Roumain, bah oui.
De Roumain, voilà.
Oui. Non, mais Ionesco, parce qu'il a été beaucoup mis en scène, énormément.
Oui, bien sûr.
Donc, en fait... ce sont des pièces quand même qui ont tellement de facettes finalement que beaucoup de gens peuvent décider de faire une mise en scène différente.
Par exemple, vous avez vu à la Huchette, la Nicolas Bataille a décidé de placer cette mise en scène à la fin, disons l'époque victorienne. Mais rien n'est indiqué dans le texte.
Dans le texte,
il n'y a pas l'époque, c'est pas du tout des Anglais de la fin du 19e. On pourrait très bien le faire avec des costumes de nos jours.
Mais je l'avais vu en version, il y a longtemps, au Sylvia Montfort, c'était des costumes de notre époque.
De notre époque, oui, on pourrait très bien, chose. Tout à fait, oui, on
et
pourrait
très
bien l'imaginer.
C'était deux bandes de mafieux, alors.
Voilà.
C'était assez marrant, mais enfin bon, ils avaient respecté le texte, hein, c'est sûr, mais voilà. Ils en avaient fait deux bandes de mafieux qui se rendent contre, pourquoi pas.
Pourquoi pas, oui. Après, la grande découverte de Nicolas, et c'est pas pour ça qu'il faut monter...
Vous l'avez connu, Nicolas?
Ah oui, très bien.
Oui.
J'ai même été mis en scène par lui.
Oui,
tout à fait.
Pour les auditeurs, c'est Nicolas Bataille.
Nicolas Bataille, pardon.
Le
metteur en scène.
Oui, qui est à l'origine de... C'est le premier metteur en scène de...
C'est ça.
Voilà.
Mais quand Ionesco a... Bon, puisque Nicolas Bataille travaillait déjà, avait mis en scène, etc. Quand Ionesco lui a apporté le début de la cantatrice chauve, c'était les deux premières scènes. Et il a beaucoup ri, et ça a beaucoup marché, mais il lui dit, je ne peux pas faire un spectacle avec deux scènes, c'est pas possible, voilà. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de génie, quand même, pour revenir après avec une pièce complète, folle. Et au départ, comme on ne savait pas comment monter ce type de théâtre, c'était complètement nouveau, donc Nicolas, qui était assez fantaisiste, etc., qui aimait beaucoup la fantaisie, avait rajouté des gags, voilà. Et ils ont fait un filage devant des amis, et il n'y a pas eu un rire, rien du tout. Et il s'est dit, on s'est trompé complètement. Et là, il a eu l'idée de se dire, mais ces personnages, en fait, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ils ont un fond dramatique. C'est-à-dire que leur vie, c'est dramatique. Ils n'arrivent plus à se parler, ils ne se retrouvent plus. Tout d'un coup, il y a un pompier qui arrive et qui est dangereux. Cette bonne qui les gêne. Enfin bon, il y a un problème. Et donc, il est reparti sur quelque chose de beaucoup plus grave. Et combien de fois il nous disait, faut penser que vous jouez du Strindberg, c'est-à-dire vraiment un drame, quelque chose de sérieux et pas faire du drôle avec cette absurdité de texte, mais au contraire d'être dans la vérité de ces personnages. Ce qui ne l'a pas empêché après de trouver une distance parce qu'il s'est inspiré des gravures des collections de Jules Verne.
Ouais.
Où les personnages avaient des positions très 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 conventionnelles, voilà.
Mais c'est ça qui fait rire aussi.
Voilà, hein. C'est amusant. Ouais. Et donc ça, c'est sa forme de mise en scène. Mais dans le fond, il voulait que ce soit tout à fait vrai et pas du tout gaguesque. Voilà, hein, voilà, c'est ça. Il faut, et c'est ça qui est le plus difficile à conserver quand on joue très très longtemps, parce que évidemment, c'est très gratifiant d'entendre le public éclater de rire, mais il faut quand même garder une certaine rigueur, parce que c'est ça qui est très important, de garder ce fond. Parce que si on perd ce fond, après, on n'a plus qu'une coquille vide. Alors, bon, ça peut faire rire certains.
Et c'est là où rentrent en jeu les comédiens et les comédiennes.
Là, voilà,
et les c'est eux qui sont les garants de l'esprit de la pièce.
De l'esprit de la pièce, voilà, que j'essaye de leur rappeler de temps en temps, en faisant ce qu'on appelle des raccords, des répétitions, voilà, pour rappeler quels sont
les... Chaque mardi, il y a des raccords pour que la pièce continue à être jouée dans l'esprit dans lequel elle a été montée.
Ah oui, chaque mardi,
donc
quand même.
Donc il y a une grande rigueur à la Huchette. Mmh. C'est pas pour rien, encore une fois, que ces spectacles durent.
Ah oui. Non, je m'en doute, oui, je m'en doute.
Alors maintenant, il y a une nouveauté, il y a le mercredi où il y a les surtitres en anglais.
Oui.
Oui.
Donc, et vous avez eu des retours de touristes
Vous savez, on dit que les Français parlent mal anglais, c'est vrai, mais les Anglais ne parlent pas autre chose qu'anglais.
Exactement.
Donc, il faut que... Alors, nous, on s'est dit, on va mettre des surtitres le mercredi étant le jour le plus incertain de la semaine, et c'est devenu un jour très fort. Parce qu'on a plusieurs revendeurs avec qui on travaille maintenant, qui vendent des places pour la cantatrice et la leçon dans le monde entier, dans tous les pays anglophones.
Oui,
et le mercredi, on a beaucoup, beaucoup de groupes anglais qui viennent, évidemment, parce que les pièces sont surtitrées.
Ah, c'est bien, très bien.
Oui. Et je voulais vous demander, vous êtes comédien, metteur en scène, vous interprétez... récemment, vous avez interprété
Gary
des seuls en scène avec Gary, Kessel, Saint-Ex, Zuberi, voilà. Et puis bien d'autres spectacles. Mmh. Vous avez joué dans Adieu, Monsieur Hoffmann, de Jean-Philippe Daguerre. Mmh. Alors, comment vous êtes, parce que vous êtes très occupé, comment vous est venu l'idée, non, je pense que vous comment vous avez pu prendre la responsabilité de devenir directeur du théâtre La Huchette? Parce que c'est une responsabilité quand même.
Pour moi, c'est un seul et même métier. J'en veux beaucoup aux acteurs de ne pas se mêler du moteur. C'est trop facile de venir jouer et puis de ne pas s'occuper de comment c'est fait. Parce qu'après, quand un acteur a un projet, il faut bien qu'il comprenne comment ça marche. Et moi, je me suis toujours intéressé à ça. Et puis, j'ai dans le sang de me sentir responsable. Responsable de la longévité, responsable du bien-être, responsable d'une histoire qui doit durer. Je me considère comme un passeur, en fait, entre les géniaux créateurs et puis ceux qui vont arriver après et auxquels on va transmettre une histoire, un petit lieu. Et ces théâtres, c'est pour ça que je me sens concerné, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que directeur. Ces théâtres, je le répète souvent, sont des bourdons. Les petits lieux. Vous savez ce que c'est qu'un bourdon ?
Non.
Un bourdon, c'est un animal qui a les ailes trop fines par rapport au corps. Et donc, il est prouvé que le bourdon ne peut pas voler. Et pourtant, le bourdon vole. Vous savez pourquoi le bourdon vole ?
Non.
Parce qu'il ignore qu'il ne peut pas voler. Et c'est ça, nos théâtres. Nos théâtres sont des petits le poche, le lucernaire, la huchette, sont des théâtres héroïques dans lesquels j'ai toujours pensé qu'on avait plus de devoirs que de droits. Il faut l'accepter, ça, au départ. Mais ce sont des théâtres qui continuent à produire parce qu'ils ignorent qu'ils sont incapables de le faire. Et ça marche. C'est un modèle économique qu'on a fondé qui marche, malgré tout. Et surtout, je me dis aussi que, en tant que directeur, et pas en tant qu'acteur, mais en tant que directeur, je me dis tant qu'on pourra continuer à payer nos loyers avec de sublimes textes de Ionesco, avec des textes comme en ce moment de Chevillard ou de tous les auteurs qu'on va créer ensuite, tant qu'on pourra payer nos loyers avec ces auteurs-là, tout ne sera pas perdu. Mais tout ne sera pas perdu si, encore une fois, nous, artistes, on s'en mêle. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois aussi beaucoup au binôme. Il ne faut pas laisser les rênes d'un théâtre simplement à un artiste, parce qu'il faut amener quelqu'un qui lui dit « Attention, là, tes rêves, c'est sympathique, mais enfin, il y a une réalité. On est toujours rattrapé par le réel. » Et donc, il y a avec moi quelqu'un qui s'appelle Gonzague Philippe, qui lui aussi, d'ailleurs, est un auteur. mais qui a les pieds sur terre, beaucoup plus que je ne l'ai moi-même, que je ne les ai moi-même, et qui de temps en temps me dit « tes idées sont superbes, enfin, commençons par aller nettoyer les toilettes ».
Oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Oui, parce que quand même, c'est un budget, quand même. Enfin, je veux dire, il faut tenir les rênes de...
Ben oui, oui, oui,
hein, c'est sûr. Comme pour tout, hein, mais c'est bon, comme pour tout. C'est comme pour tout, parce que c'est un magnifique théâtre, mais la jauge n'est pas très grande non plus. Donc, pour remplir, c'est pas toujours... bon, ben, voilà, c'est quand même un petit théâtre. C'est pas, la Comédie Française, je veux dire. Au niveau de...
Mais peu importe, vous savez, quand, il y a bien sûr des différences de jauge entre les lieux, mais quand vous faites une moitié de salle dans un gros lieu, il ne faut pas croire que vous allez être plein dans un petit. Non. Vous faites une moitié de salle dans un gros lieu, vous passez dans un petit lieu, vous faites une moitié de salle. Donc, le rapport, évidemment, économique est différent. Mais finalement, un petit succès reste un petit succès, un gros succès reste un gros succès, quelle que soit la jauge. Alors nous, nous restons extrêmement fragiles, mais Didier, qui est responsable de troupe, pourrait le dire aussi bien que moi, c'est un théâtre riche, parce que vous appuyez sur un bouton et vous avez 45 acteurs qui sont prêts à défendre ce lieu bec et ongle, et à faire en sorte que l'aventure dont je suis... un des responsables, l'aventure puisse continuer.
Voilà, c'est ça, oui. Mais enfin, il faut toujours être aux aguets. Enfin, je veux dire, il faut être vigilant.
Oui, oui, vigilant, oui.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, c'est pas facile pour le théâtre, quand même.
On a prédit la mort du théâtre 50 fois, c'est-à-dire quand la télé est arrivée, le cinéma est arrivé, etc. Bon. Rien ne remplacera jamais quelqu'un qui raconte une histoire à des gens. On a besoin d'entendre des histoires, on a besoin d'être singé, on a besoin qu'on se moque de nous. On a
besoin. C'est irremplaçable, le théâtre.
Non, absolument, c'est irremplaçable.
C'est irremplaçable parce que... pourquoi c'est irremplaçable? Ben parce que c'est sur l'instant. On vit, quand les spectateurs qui vont dans une salle de théâtre, ils vont vivre quelque chose... Qui ne se reproduira jamais.
Et puis surtout, fréquenter les petits lieux.
Voilà.
Le théâtre à Paris, au départ, il n'y avait pas de théâtre. Hein, il y avait les Arènes de Lutèce au début, mais après, il y a eu un gros théâtre qui a été la fusion de compagnies, tel de Bourgogne. Et puis après, il y a eu les théâtres périphériques, qu'on a appelés les théâtres du crime.
Le boulevard
au départ, boulevard, c'était les théâtres de crime.
Il ne reste plus que le de Jazé.
Après, ce sont des théâtres où on s'est amusé. Et puis, sont arrivés les petits lieux, qui étaient des lieux contestataires, des lieux où on a envie de faire autre chose et de nous parler de nous, d'une autre manière, peut-être parfois plus drôle, plus décalée, plus incisive, plus concrète, de façon plus concrète. Ouais, ces petits lieux sont fragiles, mais en même temps, à mon avis, ne pourront jamais disparaître.
Ben, je le souhaite, parce que c'est comme si... Alors, on parle de la flamme du soldat inconnu, là, à l'Arc de Triomphe. Là. Il y a quelqu'un qui a failli aller en prison parce qu'il avait allumé sa cigarette à la flamme de l'Arc de Triomphe. Non, mais sans rire. Hein.
Oui,
mais pour moi, le théâtre de la Huchette, c'est une flamme, quoi. C'est une flamme qui elle vaut bien celle du soldat inconnu. Enfin, je ne sais pas. Les foudres de la République. Bon. Non, mais ce n'est pas ça. Mais quand je vois que des librairies sont menacées de disparaître, évidemment, ça, on dit qu'il faut que les pages tournent et tout ça, mais ça fait mal au cœur, quoi, je veux dire. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça que. Moi, je dis, le théâtre de la Huchette, c'est quand même c'est mythique. C'est quelque chose qui fait partie de Paris.
Aussi, oui. Quand même, il y a la rue de la Huchette.
Il y a la rue de la Huchette aussi.
Oui. Ben oui, voilà.
Et puis, c'est encore une fois, beaucoup de gens qui arrivent en responsabilité dans les théâtres pensent qu'avant eux, il n'y avait rien. Et donc, leur théâtre perd beaucoup de valeur. Quand vous arrivez dans un lieu aussi chargé que celui-là, très humblement, il faut essayer d'expliquer ce qu'il y a eu avant et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et ce qu'il y a eu avant, c'est le fruit de fous furieux, de créateurs, de gens géniaux. Prévert fréquentait la Huchette, Barbara fréquentait la Huchette.
Jean-Louis Trintignant.
Jean-Louis Trintignant, Jacqueline Maillan a donné un coup de main pour que ce théâtre soit construit. Georges Vitali, je travaille en ce moment sur Caligula, mais Georges Vitali était un des créateurs de la pièce de Camus aux côtés de Gérard Philippe. C'est une histoire, c'est une histoire qu'on a pour charge de transmettre.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être vous parler de votre actualité.
Oh ben ça oui.
Non, mais il faut quand même le dire.
Bah, je vais jouer Kessel que voilà, on va fêter la 900e représentation là au théâtre La Bruyère, la 900e.
Ah oui, d'accord.
Donc là je vais reprendre ça tous les lundis au théâtre La Bruyère. Mmh. Je joue Saint-Ex en tournée et puis je vais créer Caligula en version seule en scène avec une création au Lucernaire à partir du mois de mars.
Ah d'accord.
Et dans lequel Didier va faire les musiques. Mmh. Et Didier a un projet, je viens de l'apprendre, d'un spectacle où ils sont deux, alors qu'il va être en lecture, mais il y a un auteur qu'on aime beaucoup qui a écrit un texte pour lui. Et voilà, j'ai hâte d'entendre cette pièce. Avec une comédienne qu'on adore qui s'appelle Marion Préité. J'ai tout dévoilé. Hein.
T'as
voilà.
tout dit, oui, sauf tort, le titre, parce que je ne me souviens plus du titre. Mais voilà. Non, et puis on a, alors, grâce à quand Franck est arrivé, il a eu cette volonté de se démarquer des Ionesco pour un troisième spectacle, et donc on a commencé à travailler sur des comédies musicales, et donc chaque année il y a eu des spectacles plus ou moins musicaux. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer avec La Poupée Sanglante, après il y a eu Comédien.
Quand je suis arrivé, j'ai dit à Didier, j'ai pas de plan B, il faut que ça marche, La Poupée Sanglante. Alors il a dû me détester un moment, mais il y a eu un spectacle absolument génial. C'est le premier, ça a été La Poupée Sanglante.
Oui, je l'ai vu.
Voilà, et on doit beaucoup aussi à ce spectacle.
Et c'est drôle parce qu'ils ont passé le feuilleton il y a pas longtemps.
Oui,
sur
la chaîne de Lina. Oui. Voilà, et donc il y a eu plusieurs spectacles musicaux. L'année dernière, nous avions travaillé à trois avec Patrick Halluin, Éric Chantelot et moi-même sur l'adaptation des Mystères de Paris, sur une idée de Franck. Et puis, on est en train de travailler sur la prochaine comédie musicale pour le début de la saison prochaine.
Et c'est très important, ces comédies musicales, de faire connaître le lieu par la comédie musicale, parce que la comédie musicale n'entre pas en concurrence d'une certaine manière les deux Ionesco.
Ça n'a rien à voir.
Donc il y a vraiment deux identités très différentes. Et puis alors, réussir à faire du musical dans ce lieu, c'est génial, parce que c'est pas un lieu qui est prévu pour. Donc on doit mettre l'imagination au pouvoir, encore une fois, pour que ça existe, et ils savent très très bien le faire.
J'ai vu que vous aviez interprété, Didier Bailly, vous avez fait un spectacle sur Francis Blanche.
Oui, c'était en sortant du cours avec mon camarade Jean-Michel Bonnard. Nous avons fait un numéro de duettiste sur Mon oursin et moi, un livre de Francis Blanche. Où j'avais mis quelques chansons en musique, puis on avait récupéré plein de chansons. On a rencontré son fils, sa fille.
Son fils écoute l'émission.
Ah, très bien.
Et il faisait partie.
Jean-Marie. Ah, oh, bah alors. Bonjour,
si,
Jean-Marie.
Si ça ne vous dérange pas, on va l'écouter en train de dire un texte d'Apollinaire.
Avec plaisir. Ah, non seulement ça ne nous dérange pas, mais ça va nous augmenter.
Voilà.
Maintenant, c'est un calligramme. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel 606. Et la nuit venant, on dirait des asticots dont traînaient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a 1000 petits lapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe aveuglé par le gaz asphyxiant. Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche, de Goethe et de Cologne. Il y a que je languis auprès d'une lettre qui tarde. Il y a
Dans mon porte-carte, plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vague-mestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici, invisible comme l'horizon, dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond. Il y a, dressé comme un lys, le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix à 5 km. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figures de barbarie et des cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait avec une fusée de 15 cm et qu'on ne m'a pas laissé partir. Il y a ma selle explosée par la pluie. Il y a les fleuves qui ne remontent pas les cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y a un prisonnier boche qui portait sa mitraillette sur le dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité. Apollinaire.
Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Voilà.
Ça me fait plaisir, ça me replonge quelques années en arrière.
Vous l'avez connu, Jean-Marie Blanche ?
Oui, bien, très bien. Je l'ai même accompagné dans une émission de télévision où il chantait « Ça tourne pas rond dans ma petite tête ».
Mais il était tout jeune hein, quand il a chanté « Ça tourne pas rond ».
Ah, il était tout jeune.
Quand je ne sais pas, il n'avait pas 30 ans. Hein.
Oh, non, je ne pense pas. Non, parce que c'était vraiment le premier spectacle, donc ça date de 40 ans.
Déjà. Vous l'avez accompagné pour... Parce que je sais qu'il a... il a chanté « Ça tourne pas rond » avec Jacques Martin. Oui, c'était les dimanches de Jacques Martin. Oui. Alors, je ne sais plus, ça a été enregistré avant, je crois. C'était pas en direct. Si.
Nous, ce n'était pas pendant les dimanches de Jacques Martin. C'était une émission sur France... Enfin, sur, à l'époque, je ne sais pas, FR3. Non, si, France 3. Je ne sais plus comment. C'était une émission sur les... Sur les chansons, sur... voilà. Et...
Oui, il a fait plusieurs émissions.
Oui, on en parlait. Ouais. On en parlait beaucoup.
Et vous l'avez accompagné
oui, j'ai accompagné. Oui. Et ben, on le voyait beaucoup, oui. On s'est vu plusieurs fois pour préparer.
Ça, moi, oui.
On a rencontré aussi sa dernière fille...
La dernière film de Francis Blanche, oui.
Voilà, qui était noire. Donc,
ah oui, d'accord, oui.
Il avait fait, comme c'était un farceur,
c'était Caroline,
je pense que ça lui faisait...
Caroline.
Il aimait beaucoup. Puis il y avait la sœur aînée aussi, voilà.
Dominique,
ouais. voilà, exactement.
Ah, vous avez rencontré toute la famille.
Tout le monde, toute la famille.
Barbara.
Voilà. Et c'est quand même grâce à ça qu'on s'est retrouvés à la Huchette, parce qu'on avait invité les musiciens qui avaient écrit des chansons qu'on avait utilisées pour le spectacle, dont Edgar Bischoff, qui était un grand ami d'un monsieur qui s'appelait Roger Desfossés, Et ils sont venus tous les deux nous écouter. Et quand ils sont venus nous dire gentiment bravo à la fin, et ils nous disaient ça nous a beaucoup plu, mais il y en a un à qui ça plaira encore plus, c'est Nicolas Bataille. Et on vous amènera Nicolas Bataille. Et à l'époque, ils cherchaient deux jeunes comédiens pour un spectacle qu'ils avaient prévu de monter à la Huchette. Et ben, quelques années après, 2-3 ans après, on s'est retrouvés à la Huchette. Donc c'était grâce à ce spectacle Francis Blanche.
Donc il y a la filiation entre Ionesco et Francis Blanche.
Ben voilà, il y a quelque chose en tout cas.
Ah, ouais. Ben, on va redire quand même, donc à la Huchette, la cantatrice chauve et la leçon, ça se joue du mardi
au samedi, à 19h la cantatrice tous les soirs et à 20h la leçon. Et puis là, en 21h, on va avoir un biopic sur Walt Disney qui va commencer le 9 ou le 10 septembre.
Ah oui.
Et ça va être un temps fort magnifique, parce que faire entrer Walt Disney, qui est le papa du cartoon, chez Ionesco.
Ah oui, il faut le faire magnifique. Quand même. Hein. Ouais. Oui. Ah, c'est super. Oui.
Venez voir ce spectacle à 21h aussi. Ça va s'appeler Walt, tout simplement.
Ah, Walt, oui. D'accord. Alors, on dit c'est 23 rue de la Huchette.
Oui.
Voilà. Alors, ça appartenait. Il ne reste plus beaucoup de temps. Bon, ben. Oui, ça appartenait à un certain Marcel Pinard, c'est ça?
Oui, Marcel Pinard, qui était un agriculteur, qui était dans son champ et qui a eu une révélation. Il s'est dit, je vais devenir directeur de théâtre. Voilà. Alors, il avait un jeu qui relevait plus de l'expressionnisme allemand. C'était pas un très bon comédien, mais en revanche, il a su s'entourer et il a fait venir des gens magnifiques comme Vitali, dont nous parlions tout à l'heure, Georges Vitali, et bien d'autres. Et ce théâtre est devenu ce qu'il est devenu grâce à Ionesco, à cette troupe et à cette histoire en marche.
Voilà. Eh bien, malheureusement, cette émission se termine. C'est pas malheureusement, non, mais bon.
Ben non, dommage.
Il y a une autre émission qui
et donc qui pour Walt et la petite souris, on viendra. Moi qui zigouillais une souris dans mon appartement, je viendrai voir Walt.
Ah, avec plaisir.
Moi aussi, je viendrai. Et puis je remercie Marie-Hélène Briand qui nous a permis d'avoir un contact avec vous, parce que voilà, vous êtes une équipe, vous êtes solidaire et grâce à elle, j'ai pu vous inviter. C'était pas évident parce que je me suis dit, ils vont être en vacances, etc. Mais
non,
bon,
non,
voilà.
Non. Ah oui, Marie-Hélène Briand, c'est un monument.
Oui, elle est une femme charmante.
Attachée à beaucoup de théâtre à Paris, et particulièrement à la Huchette.
Oui. Voilà. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis,
à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Plaisir.
Ainsi se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créature radiophonique. Et la semaine prochaine, on verra. Nous étions ensemble pendant 1h30, c'était le temps qu'une mouche fasse 4 fois le tour des buttes Chaumont et que 14 km² de forêts primitives ou autres disparaissent de la surface de la Terre, c'est-à-dire la superficie du Bois de Boulogne et du 16e arrondissement dans quelques instants. Bulle Noire, magazine du polar, de la BD, de l'illustration et autres, et quand je vous dis qu'au sommaire de Bulle Noire, il va être question de Placide et Museau, vous dites oui, d'accord, c'est les deux illustrateurs qui avaient piqué les noms des héros de Cadéro à Arnal. Eh bien non, on va vraiment parler de Placide et Museau de Arnal.
T'as bien capté Bulle-Noire, du libertaire, radio libertaire. On va parler de polar, du libertaire, radio libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Du libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire, du libertaire, radio libertaire. On va parler de polar, du libertaire, radio libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Thank you. bien capté, bulle noire. Tur libertaire.
Tur libertaire.
On va parler de Paula. Tur libertaire. Tur libertaire.
On parle de 38, de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio
Libertaire.
Radio
Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous et bien aujourd'hui, si vous avez regardé l'agenda de la radio, vous aurez compris que nous avons avec nous Jean-Luc Muller. Salut Jean-Luc.
Hello.
Alors Jean-Luc Muller, auteur, réalisateur, moi... comme tout le monde, j'allais dire presque comme tout le monde, un peu de musique, un peu de tout, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire un touche-à-tout ?
Ah, quand on dit touche-à-tout, en fait, c'est...
C'est bon à rien, mauvais en tout. Hein,
voilà, exactement.
Ça, ouais. Non, mais ça, c'est... Alors, jeune homme, est-ce qu'on peut dire un jeune homme ?
Ah, ça fait un petit moment que j'ai oublié que cette expression existait.
Que c'était qu'un jeune homme.
Ouais.
Bon, né en 1964.
Ouais. Ah oui, j'ai
ça
pas eu le choix.
Je ne rajeunis pas. Hein.
J'ai pas eu le choix, surtout.
Bah alors, dis-moi comment le jeune Jean-Luc Muller. Alors, il y a un bouquin d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de t'inviter, c'est j'ai vu en librairie 80 ans.